mûre avec une inquiète précipitation et jeta un cri de désespoir quand il eut vainement cherché les traces de la serrure à secret. Il lui fut impossible de se refuser à reconnaître l'affreuse vérité. La porte, habilement construite pour servir les vengeances de la duchesse, ne pouvait pas s'ouvrir en dedans. Rinaldo colla sa joue à divers endroits et ne sentit nulle part l'air chaud de la galerie. Il espérait rencontrer une fente qui lui indiquerait l'endroit où finissait le mur, mais rien, rien. La paroi semblait être d'un seul bloc de marbre. Alors il lui échappe un sourd rugissement d'hyène. « Eh bien, nous croyons avoir récemment inventé les cris de hyène, » dit Lousteau. « La littérature de l'Empire les connaissait déjà, les mettait même en scène avec un certain talent d'histoire naturelle, ce que prouve le mot « sourd ».»« Ne faites plus de réflexion, monsieur, » dit Madame de la Baudraye. « Vous y voilà, » s'écria Bianchon, « l'intérêt, ce monstre romantique, vous a mis la main au collet comme moi tout à l'heure. »« Lisez, » cria le procureur du roi, « je comprends. » »« Le fat, » dit le président à l'oreille de son voisin le sous-préfet. « Il veut flatter Madame de la Baudraye, » répondit le nouveau sous-préfet. « Eh bien, je lis de suite, » dit solennellement Lousteau. On écouta le journaliste dans le plus profond silence. Un gémissement profond répondit au cri de Rinaldo. Mais, dans son trouble, il le prit pour un écho, tant ce gémissement était faible et creux. Il ne pouvait pas sortir d'une poitrine humaine. « Santa Maria !» dit l'inconnu. « Si je quitte cette place, je ne saurais plus la retrouver, » pensa Rinaldo quand il reprit son sang-froid accoutumé. « Frappé, je serai reconnu. Que faire ?»« Qui donc est là ?» demanda la voix. « Hein ?» dit le brigand. « Les crapauds parleraient-ils ici ?»« Je suis le duc de Bracciano. » « Qui que vous soyez, si vous n'appartenez pas à la duchesse, venez au nom de tous les saints, venez à moi !»«
Il faudrait savoir où tu es, monseigneur le duc, » répondit Rinaldo avec l'impertinence d'un homme qui se voit nécessaire. « Je te vois, mon ami, car mes yeux se sont accoutumés à l'obscurité. »«
Écoute, marche droit, bien, tourne à gauche, viens, ici, nous voilà réunis. » Rinaldo, mettant ses mains en avant par prudence, rencontra des barres de fer. « On me trompe !» cria le bandit. « Non !» Tu as touché ma cage. Assieds-toi sur un fût de porphyre qui est là. Comment le duc de Bracciano peut-il être dans une cage ? Demanda le bandit. Mon ami, j'y suis depuis 30 mois, debout, sans avoir pu m'asseoir. Mais qui es-tu, toi ? Je suis Rinaldo, le prince de la campagne, le chef de 80 braves que les lois nomment à tort des scélérats, que toutes les dames admirent et que les juges pendent par une vieille habitude. Dieu soit loué, je suis sauvé. Un honnête homme aurait eu peur. « Tandis que je suis sûr de pouvoir très bien m'entendre avec toi, » s'écria le duc. « Oh, mon cher libérateur, tu dois être armé jusqu'aux dents. »« Eh, verissimo, aurais-tu des, oui, des limes, des pinces, corpo di bacco. Je venais emprunter indéfiniment les trésors des Bracciani. »« Tu en auras légitimement une bonne part, mon cher Rinaldo, et peut-être irai-je faire la chasse aux hommes en ta compagnie. »« Vous m'étonnez, Excellence. Écoute-moi, Rinaldo. » Je ne te parlerai pas du désir de vengeance qui me ronge le cœur. Je suis là depuis 30 mois. Tu es italien, tu me comprendras. Ah, mon ami, ma fatigue et mon épouvantable captivité ne sont rien en comparaison du mal qui me ronge le cœur. La duchesse de Bracciano est encore une des plus belles femmes de Rome. Je l'aimais assez pour en être jaloux. Vous ? Son mari ? Oui, j'avais tort, peut-être. Certes, cela ne se fait pas, dit Rinaldo. Ma jalousie fut excitée par la conduite de la duchesse, reprit le duc. L'événement a prouvé que j'avais raison. Un jeune Français aimait Olympia. Il était aimé d'elle. J'eus des preuves de leur mutuelle affection.
« 1000 pardons, mesdames, » dit Lousteau. « Mais voyez-vous, il m'est impossible de ne pas vous faire observer combien la littérature de l'Empire allait droit au fait sans aucun détail, ce qui me semble le caractère des temps primitifs. » La littérature de cette époque tenait le milieu entre le sommaire des chapitres du Télémaque et les réquisitoires du ministère public. Elle avait des idées, mais elle ne les exprimait pas, la dédaigneuse. Elle observait, mais elle ne faisait part de ses observations à personne, l'avare. Il n'y avait que Fouché qui fit part de ses observations à quelqu'un. La littérature se contentait alors, suivant l'expression d'un des plus niais critiques de la Revue des Deux Mondes, d'une assez pure esquisse et du contour bien net de toutes les figures à l'antique. Elle ne dansait pas sur les périodes. Je le crois bien, elle n'avait pas de période, elle n'avait pas de mots à faire chatoyer. Elle vous disait « Lubin aimait Toinette, Toinette n'aimait pas Lubin, Lubin tua Toinette et les gendarmes prirent Lubin qui fut mis en prison, mené à la cour d'assises et guillotiné. » Forte esquisse, contour net, quel beau drame ! Eh bien aujourd'hui, les barbares font chatoyer les mots. et quelquefois les morts, dit monsieur de Clagny. Ah, répliqua Lousteau, vous vous donnez de ces airs.
Que veut-il dire? Demanda madame de Clagny, que ce calembour inquiéta.
Il me semble que je marche dans un four, répondit la mairesse.
Sa plaisanterie perdrait à être expliquée, fit observer Gatien. Aujourd'hui, reprit Lousteau, les romanciers dessinent des caractères, et au lieu du contour net, ils vous dévoilent le cœur humain. Ils vous intéressent soit à Toinette, soit à Lubin.
Moi, je suis effrayé de l'éducation du public en fait de littérature, dit Bianchon. Comme les Russes battus par Charles XII qui ont fini par savoir la guerre, le lecteur a fini par apprendre l'art. Jadis, on ne demandait que de l'intérêt au roman. Quant au style, personne n'y tenait, pas même l'auteur. Quant à des idées, zéro. Quant à la couleur locale, néant. Insensiblement, le lecteur a voulu du style, de l'intérêt, du pathétique, des connaissances positives. Il a exigé les cinq sens littéraires, l'invention, le style, la pensée, le savoir, le sentiment. Puis la critique est venue, brochant sur le tout. Le critique, incapable d'inventer autre chose que des calomnies, a prétendu que toute œuvre qui n'émanait pas d'un cerveau complet était boiteuse. Quelque charlatan comme Walter Scott, qui pouvait réunir les cinq sens littéraires, s'étant alors montré, ceux qui n'avaient que de l'esprit, que du savoir, que du style ou que du sentiment, ces éclopés, ces acéphales, ces manchots, ces borgnes littéraires, se sont mis à crier que tout était perdu. Ils ont prêché des croisades contre les gens qui gâtaient le métier, ou ils en ont nié les œuvres.
C'est l'histoire de vos dernières querelles littéraires, fit observer Dina.
De grâce, s'écria monsieur de Clagny, revenons au duc de Bracciano.
Au grand désespoir de l'assemblée, Lousteau reprit la lecture de la bonne feuille.
Alors j'ai voulu m'assurer de mon malheur, afin de pouvoir me venger sous l'aile de la Providence et de la loi. La duchesse avait deviné mes projets. Nous nous combattions par la pensée, avant de nous combattre le poison à la main. Nous voulions nous imposer mutuellement une confiance que nous n'avions pas. Moi pour lui faire prendre un breuvage, elle pour s'emparer de moi. Elle était femme, elle l'emporta, car les femmes ont un piège de plus que nous autres à tendre, et j'y tombais. Je fus heureux. Mais le lendemain matin, je me réveillais dans cette cage de fer. Je rugis pendant toute la journée dans l'obscurité de cette cave, située sous la chambre à coucher de la duchesse. Le soir, enlevé par un contrepoids habilement ménagé, je traversai les planchers et vis dans les bras de son amant la duchesse qui me jeta un morceau de pain, ma pitance de tous les soirs. Voilà ma vie depuis 30 mois. Dans cette prison de marbre, mes cris ne peuvent parvenir à aucune oreille. Pas de hasard pour moi. Je n'espérais plus. En effet, la chambre de la duchesse est au fond du palais, et ma voix, quand j'y monte, ne peut être entendue de personne. Chaque fois que je vois ma femme, elle me montre le poison que j'avais préparé pour elle et pour son amant. Je le demande pour moi, mais elle me refuse la mort. Elle me donne du pain, que je mange. J'ai bien fait de manger, de vivre, j'avais compté sans les bandits. Oui, Excellence, quand ces imbéciles d'honnêtes gens sont endormis, nous veillons, nous. Ah, Rinaldo, tous mes trésors sont à toi, nous les partagerons en frères, et je voudrais te donner tout, jusqu'à mon duché. Excellence, obtenez-moi du pape une absolution in articulo mortis, cela me vaudra mieux pour faire mon état. Tout ce que tu voudras, mais lime les barreaux de ma cage et prête-moi ton poignard. Nous n'avons guère de temps, va vite. Ah, si mes dents étaient des limes, j'ai essayé de mâcher ce fer. Excellence, dit Rinaldo en écoutant les dernières paroles du duc, j'ai déjà scié un barreau.
Tu es un dieu. Votre femme était à la fête de la princesse Villa Vitiosa. Elle est revenue avec son petit français. Elle est ivre d'amour. Nous avons donc le temps.
As-tu fini?
Oui.
Ton poignard? Demanda vivement le duc au bandit.
Le voici.
Bien.
J'entends le bruit du ressort.
Ne m'oubliez pas, dit le bandit qui se connaissait en reconnaissance.
Pas plus que mon père, dit le duc.
Adieu, lui dit Rinaldo.
Tiens, comme il s'envole, ajouta le bandit en voyant disparaître le duc.
Pas plus que son père, se dit-il, si c'est ainsi qu'il compte se souvenir de moi.
Ah, j'avais pourtant fait le serment de ne jamais nuire aux femmes. Mais laissons pour un moment le bandit livré à ses réflexions et montons comme le duc dans les appartements du palais.
Encore une vignette, un amour sur un colimaçon. Puis la 230 est une page blanche, dit le journaliste. Voici deux autres pages blanches prises par ce titre, si délicieux à écrire quand on a l'heureux malheur de faire des romans. Conclusion. Jamais la duchesse n'avait été si jolie. Elle sortit de son bain vêtue comme une déesse et, voyant Adolphe couché voluptueusement sur des piles de coussins, « Tu es bien beau, lui dit-elle, Et toi, Olympia, tu m'aimes toujours ? Toujours mieux, dit-il. Ah, il n'y a que les Français qui sachent aimer, s'écria la duchesse. M'aimeras-tu bien ce soir ?
Oui.
Viens donc. Et par un mouvement de haine et d'amour, soit que le cardinal Borborigano lui eût remis plus vivement au cœur son mari, soit qu'elle se sentit plus d'amour à lui montrer, elle fit partir le ressort et tendit les bras à...
« Voilà tout !» s'écria Lousteau, « car le prote a déchiré le reste en enveloppant mon épreuve. Mais c'est bien assez pour nous prouver que l'auteur donnait des espérances. »«
Je n'y comprends rien !» dit Gatien Boisrouge, qui rompit le premier le silence que gardaient les Sancerrois.
« Ni moi non plus !» répondit Monsieur Gravier.
« C'est cependant un roman fait sous l'Empire, lui dit Lousteau.
« Ah !» dit Monsieur Gravier, « à la manière dont l'auteur fait parler le bandit, on voit qu'il ne connaissait pas l'Italie. Les bandits ne se permettent pas de pareils concetti. »
Madame Gorju vint à Bianchon, qu'elle vit rêveur, et lui dit en lui montrant Euphémie Gorju, sa fille, douée d'une assez belle dot.
« Quelle galimatia ! Les ordonnances que vous écrivez valent mieux que ces choses-là. »
La mairesse avait profondément médité cette phrase qui, selon elle, annonçait un esprit fort.
« Ah, madame, il faut être indulgent, car nous n'avons que 20 pages sur 1000, répondit Bianchon en regardant Mademoiselle Gorju, dont la taille menaçait de tourner à la première grossesse.
« Eh bien, monsieur de Clagny, dit Lousteau, nous parlions hier des vengeances inventées par les maris. Que dites-vous de celles qu'inventent les femmes ?»«
Je pense, répondit le procureur du roi, que le roman n'est pas d'un conseiller d'État, mais d'une femme. En conception bizarre, l'imagination des femmes va plus loin que celle des hommes. Témoin le Frankenstein de Mistress Shelley, le Léon et Léonie de George Sand, les œuvres d'Anne Radcliffe et le nouveau Prométhée de Camille Maupin. »
Dina regarda fixement Monsieur de Clagny, en lui faisant comprendre, par une expression qui le glaça, que malgré tant d'illustres exemples, elle prenait cette réflexion pour Paquita la Sévillane.
« Bah !» dit le petit La Baudraye, « le duc de Bracciano que sa femme a mis en cage, et à qui elle se fait voir tous les soirs dans les bras de son amant, va la tuer. Vous appelez ça une vengeance ? Nos tribunaux et la société sont bien plus cruels. »«
En quoi ? » fit Lousteau.
« Eh bien, voilà le petit La Baudraye qui parle !» dit le président Boisrouge à sa femme.
« Mais on laisse vivre la femme avec une maigre pension. Le monde lui tourne l'or le dos. Elle n'a plus ni toilette ni considération. Deux choses qui, selon moi, sont toute la femme !» dit le petit vieillard.
« Mais elle a le bonheur !» répondit fastueusement Madame de La Baudraye.
« Non !» répliqua l'avorton en allumant son bougeoir pour aller se coucher. « Car elle a un amant !»
« Pour un homme qui ne pense qu'à ses provins et à ses baliveaux, il a du trait, » dit Lousteau.
« Il faut bien qu'il ait quelque chose, » répondit Bianchon.
Madame de La Baudraye, la seule qui put entendre le mot de Bianchon, se mit à rire si finement et si amèrement à la fois que le médecin devina le secret de la vie intime de la châtelaine, dont les rides prématurées le préoccupaient depuis le matin. Mais Dina ne devina point, elle, les sinistres prophéties que son mari venait de lui jeter dans un mot et que feu le bon abbé Duret n'eut pas manqué de lui expliquer. Le petit La Baudraye avait surpris dans les yeux de Dina, quand elle regardait le journaliste en lui rendant la balle de la plaisanterie, cette rapide et lumineuse tendresse qui dore le regard d'une femme à l'heure où la prudence cesse, où commence l'entraînement. Dina ne prit pas plus garde à l'invitation que lui faisait ainsi son mari d'observer les convenances que Lousteau ne prit pour lui les malicieux avis de Dina le jour de son arrivée. Tout autre que Bianchon se serait étonné du prompt succès de Lousteau, mais il ne fut même point blessé de la préférence que Dina donnait au feuilleton sur la faculté tant il était médecin. En effet, Dina, grande elle-même, devait être plus accessible à l'esprit qu'à la grandeur. L'amour préfère ordinairement les contrastes aux similitudes. La franchise et la bonhomie du docteur, sa profession, tout le desservait. Voici pourquoi. Les femmes qui veulent aimer, et Dina voulait autant aimer qu'être aimée, ont une horreur instinctive pour les hommes voués à des occupations tyranniques. Elles sont, malgré leur supériorité, toujours femmes en fait d'envahissement. Poète et feuilletoniste, le libertin Lousteau, paré de sa misanthropie, offrait ce clinquant d'âme et cette vie à demi oisive qui plaît aux femmes. Le bon sens carré, les regards perspicaces de l'homme vraiment supérieur gênaient Dina, qui ne s'avouait pas à elle-même sa petitesse. Elle se disait « Le docteur vaut peut-être mieux que le journaliste, mais il me plaît moins. » Puis elle pensait aux devoirs de la profession et se demandait si une femme pouvait jamais être autre chose qu'un sujet aux yeux d'un médecin qui voit tant de sujets dans sa journée. La première proposition de la pensée inscrite par Bianchon sur l'album était le résultat d'une observation médicale qui tombait trop à plomb sur la femme pour que Dina n'en fût pas frappée. Enfin, Bianchon, à qui sa clientèle défendait un plus long séjour, partait le lendemain. Quelle femme, à moins de recevoir au cœur le trait mythologique de Cupidon, peut se décider en si peu de temps? Ces petites choses qui produisent les grandes catastrophes, une fois vues en masse par Bianchon, il dit en quatre mots à Lousteau le singulier arrêt qu'il porta sur Madame de La Baudraye et qui causa la plus vive surprise aux journalistes. Pendant que les deux Parisiens chuchotaient, il s'élevait un orage contre la châtelaine parmi les Sancerrois qui ne comprenaient rien à la paraphrase ni aux commentaires de Lousteau. Loin d'y voir le roman que le procureur du roi, le sous-préfet, le président, le premier substitut Lebas, Monsieur de La Baudraye et Dina en avaient tiré, toutes les femmes groupées autour de la table à thé n'y voyaient qu'une mystification et accusaient la muse de Sancerre d'y avoir trempé. Toutes s'attendaient à passer une soirée charmante, toutes avaient inutilement tendu les facultés de leur esprit. Rien ne révolte plus les gens de province que l'idée de servir de jouet aux gens de Paris. Madame Piedefer quitta la table à thé pour venir dire à sa fille « Va donc parler à ces dames, elles sont très choquées de ta conduite. » Lousteau ne put s'empêcher de remarquer alors l'évidente supériorité de Dina sur l'élite des femmes de Sancerre. Elle était la mieux mise, ses mouvements étaient pleins de grâce, son teint prenait une délicieuse blancheur aux lumières. Elle se détachait enfin sur cette tapisserie de vieilles faces, de jeunes filles mal habillées, à tournure timide, comme une reine au milieu de sa cour. Les images parisiennes s'effaçaient, Lousteau se faisait à la vie de province, et s'il avait trop d'imagination pour ne pas être impressionné par les magnificences royales de ce château, par ses sculptures exquises, par les antiques beautés de l'intérieur, il avait aussi trop de savoir pour ignorer la valeur du mobilier qui enrichissait ce joyau de la Renaissance. Aussi, lorsque les Sancerrois se furent retirés un à un, reconduits par Dina, car ils avaient tous pour une heure de chemin, quand il n'y eut plus au salon que le procureur du roi, M. Lebas, Gatien et M. Gravier qui couchaient à Anzy, le journaliste avait-il déjà changé d'opinion sur Dina? Sa pensée accomplissait cette évolution que Madame de La Baudraye avait eu l'audace de lui signaler à leur première rencontre. « Ah, comme ils vont dire contre nous pendant le chemin !» s'écria la châtelaine en rentrant au salon après avoir mis en voiture le président, la présidente, Madame et Mademoiselle Popinot-Chandier. Le reste de la soirée eut son côté réjouissant, car en petit comité, chacun versa dans la conversation son contingent d'épigrammes sur les diverses figures que les Sancerrois avaient faites pendant les commentaires de Lousteau sur l'enveloppe de ses épreuves. « Mon cher, dit en se couchant Bianchon à Lousteau, on les avait mis ensemble dans une immense chambre à deux lits, tu seras l'heureux mortel choisi par cette femme, née Piedefer. Tu crois ? Hé, cela s'explique. Tu passes ici pour avoir eu beaucoup d'aventures à Paris. » Et pour les femmes, il y a dans un homme à bonne fortune je ne sais quoi d'irritant qui les attire et le leur rend agréable. Est-ce la vanité de faire triompher leurs souvenirs entre tous les autres? S'adresse-t-elle à son expérience comme un malade surpaye un célèbre médecin? Ou bien sont-elles flattées d'éveiller un cœur blasé? Les sens et la vanité sont pourtant de choses dans l'amour que toutes ces suppositions peuvent être vraies, répondit Lousteau. Mais si je reste, c'est à cause du certificat d'innocence instruite que tu donnes à Dina. Elle est belle, n'est-ce pas? Elle deviendra charmante en aimant, dit le médecin. Puis, après tout, ce sera un jour ou l'autre une riche veuve, et un enfant lui vaudrait la jouissance de la fortune du sire de La Baudraye. Mais c'est une bonne action que de l'aimer, cette femme, s'écria Lousteau. Une fois mère, elle reprendra de l'embonpoint. Les rides s'effaceront, elle paraîtra n'avoir que 20 ans. Eh bien, fit Lousteau, en se roulant dans ses draps, « Si tu veux m'aider demain, oui, demain, je... Enfin, bonsoir. » Le lendemain, Madame de La Baudraye, à qui depuis 6 mois son mari avait donné des chevaux dont il se servait pour ses labours et une vieille calèche qui sillonnait la ferraille, eut l'idée de reconduire Bianchon jusqu'à Cône, où il devait aller prendre la diligence de Lyon à son passage. Elle emmena sa mère et Lousteau, mais elle se proposa de laisser sa mère à La Baudraye, de se rendre à Cône avec les deux Parisiens, et d'en revenir seule avec Étienne. Elle fit une charmante toilette que lorgna le journaliste, brodequins bronzés, bas de soie gris, une robe d'organdie, une mantille de dentelle noire et une charmante capote de gaze noire ornée de fleurs. Quant à Lousteau, le drôle s'était mis sur le pied de guerre, bottes vernies, pantalon d'étoffe anglaise plissé par devant,
un gilet très ouvert qui laissait voir une chemise extra fine, et les cascades de satin noir broché de sa plus belle cravate, une redingote noire, très courte et très légère.